Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, entrons dans les arcanes de l'Institut des sciences chimiques de Rennes, Cyril et Benoît, thésards au sein de l'équipe ICMV ou Ingénierie chimique et molécules pour le vivant, nous présentent leurs travaux actuels qui consistent à produire de l'hydrogène par photocatalyse. Laissons opérer l'alchimie. Nous sommes aujourd'hui avec les thésards de l'Institut de sciences chimiques de Rennes qui travaillent en ce moment sur la photocatalyse. Donc, est-ce que vous voudriez bien vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que votre laboratoire et vos travaux ?
Alors, donc je m'appelle Cyril Hamon et donc je travaille dans l'équipe ICMV, ingénierie, chimie et molécules pour le vivant. Et donc, je suis en troisième année de thèse.
Donc, moi, c'est Benoît Boichard. Donc, je suis dans la même équipe que Cyril. En première année de thèse, voilà. Et au sein de l'équipe donc ingénierie chimique et molécules pour le vivant, nous faisons partie d'une équipe qui travaille plus particulièrement sur donc l'application de nanoparticules pour la photocatalyse.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément, mais de manière simple, en quoi est-ce que ça consiste ?
Alors la photocatalyse, donc ça consiste à capter l'énergie de la lumière et à partir de l'énergie de cette lumière, eh bien venir catalyser des réactions. Catalyser des réactions, c'est-à-dire venir faciliter en fait des réactions chimiques qui ne se produiraient pas autrement. Voilà.
Donc ici l'idée est de capter l'énergie du soleil. Donc ici l'idée est de capter l'énergie du soleil pour récolter en fait donc l'énergie lumineuse pour donc produire de l'hydrogène. Donc après donc pourquoi produire de l'hydrogène ? Donc l'hydrogène est donc utilisé donc comme vecteur pour stocker l'énergie et aussi donc pour libérer l'énergie donc comme dans les piles à combustible donc qu'on le connaît qui pourrait éventuellement remplacer les moteurs à explosion dans les voitures bientôt.
Qu'est-ce que vous utilisez justement pour faire cette catalyse ? Quels matériaux vous utilisez et pourquoi ces matériaux ?
Donc, ce sur quoi nous travaillons sont donc des particules. Ce sont donc des particules semi-conductrices. C'est en gros à peu près les mêmes matériaux qui vont composer les panneaux solaires. Donc, ce sont des collecteurs de lumière. Et donc, ils ont une forme particulière en forme de bâtonnet.
Et une autre de leurs particularités, eh bien, c'est leur taille, puisqu'ils ont une taille donc nanométrique, environ une centaine de nanomètres, et donc ils sont extrêmement petits et composés de matériaux qui possèdent donc des propriétés de semi-conduction, comme on en a discuté précédemment, c'est-à-dire eh bien du sélénure de cadmium, donc deux éléments chimiques. Avec du cadmium et du sélénium qui vont composer le cœur de notre particule et autour, eh bien, on va avoir un matériau qui lui sera composé de cadmium et de soufre. Et donc ces nanoparticules, contrairement par exemple aux panneaux solaires pour lesquels le retraitement du silicium à l'heure actuelle génère une pollution conséquente, eh bien, ces nanoparticules, lorsqu'on va les dissoudre dans de l'acide, justement, elles vont se dissoudre et on va pouvoir les récupérer et retravailler sur ces matériaux.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de bâtonnets à l'échelle nanométrique. Alors, pourquoi utiliser l'échelle du nanomètre et pourquoi des objets aussi petits ?
D'abord, on va essayer de voir un peu ce que c'est un nanomètre. Donc, c'est une échelle, c'est-à-dire c'est un milliardième de mètre. C'est-à-dire c'est ce qui revient en fait à regarder un cheveu du haut de la tour Eiffel. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, à l'échelle nanométrique, ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur ce type de particules et d'autres, donc on va avoir des effets que l'on n'a pas pour le matériau massif. Donc ça marche avec l'or, les particules magnétiques et les particules donc semi-conductrices, celles qui nous intéressent. Notamment pour ces dernières, on va donc avoir une modification du spectre d'émission, c'est-à-dire qu'on va balayer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en faisant varier le diamètre seulement de quelques nanomètres de notre germe, ce qui fait que donc de petits changements donc à l'échelle à cette échelle va induire donc de grands changements à l'échelle du dans le visible. On peut aussi rajouter que notre solution va donc être composée d'innombrables particules en solution. Et donc on va avoir ce qu'on appelle donc des effets de surface. En effet, si on additionnait la surface de tous nos objets, on pourrait probablement recouvrir donc un terrain de foot ainsi. Et donc cette surface spécifique énorme va donc faciliter donc nos réactions.
Faciliter ou alors augmenter le nombre de réactions qui peuvent être faites suivant le nombre de catalyseurs qui sont justement sur cette surface spécifique. En fait, on a une surface qui est beaucoup plus grande que juste la surface qu'aurait le même matériau massif.
Donc au final, ce que vous nous dites, c'est que les matériaux utilisés pour fabriquer ces batteries, on peut appeler ça des batteries, c'est ça ?
Oui, et je préfère les définir comme des nano-électrodes.
Donc ces nano-électrodes, donc vous nous dites qu'au final, elles sont recyclables.
Alors, sur pour l'environnement, à l'heure actuelle, nous en sommes donc à de la recherche fondamentale. Ce sera principalement les industriels lorsqu'ils mettront au point les procédés qui permettront de produire en masse ces objets qui définiront si effectivement c'est propre pour l'environnement ou pas. Il y a des façons propres effectivement de les recycler, mais comme pour un certain nombre d'autres éléments.
Dans votre laboratoire, justement, comment est-ce que vous travaillez pour arriver à ces réactions ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en termes simples, les manipulations que vous faites, justement, sur le sélénure de cadmium ou le soufre et tous ces matériaux qui sont quand même relativement dangereux ?
Alors, pour se protéger, effectivement, de ces matériaux qui, sous leur forme initiale, peuvent présenter une certaine toxicité, on utilise donc différents moyens de protection. Le premier, c'est qu'on va travailler dans des solvants. Donc, des solvants, c'est juste comme de l'eau, c'est un milieu liquide, en fait. Et quand nos particules sont dans ce milieu liquide, eh bien, on évite qu'elles se disséminent dans l'atmosphère et donc qu'on les respire, ce qui serait une voie d'entrée assez rapide pour ces particules, finalement, dans le corps. Donc, après, on utilise un certain nombre d'autres équipements. On utilise, par exemple, un matériel très utilisé en chimie, qui est la rampe à vide, qui va nous permettre de travailler sous une atmosphère qui contient un gaz, soit un gaz inerte, soit donc rien du tout, puisque ce sera du vide. Et donc, cette protection permet en fait de récupérer les gaz et de les acheminer à un endroit que l'on connaît, où ils vont être piégés, et donc ça évitera qu'on les respire. Voilà, notre rampe à vide ne fait pas le même bruit que le portable donc, qui vient de sonner. C'est quelque chose de très silencieux au final et donc des conditions de travail finalement assez confortables.
Ici, donc le but est de produire de l'hydrogène, qu'on va dire que l'on peut décomposer ce travail en plusieurs étapes. Donc la première étape, comme Benoît l'a dit, c'est que donc on travaille sur des rampes à vide qui vont donc nous permettre entre autres de synthétiser donc ces particules. Et donc une fois que ces particules sont synthétisées, donc on va se débrouiller pour pouvoir travailler dans l'eau particulièrement, qui donc est un solvant non toxique qui va nous permettre de travailler avec des protéines ou d'autres types, plein de choses. Mais ça on pourra couper. Et donc ce sont des particules semi-conductrices, c'est-à-dire qu'elles ne conduisent mal l'électricité, donc il faut leur apporter de l'énergie pour que justement donc elles conduisent l'électricité. Donc il va sous irradiation donc de la lumière du soleil, il va donc être généré des porteurs de charge, c'est-à-dire un électron et donc son opposé, ce qu'on appelle un trou, donc une charge négative, une charge positive. Et donc ces porteurs de charge vont se recombiner en émettant de la lumière. Donc, Donc ici, le but de ce travail est donc d'utiliser les porteurs de charge générés par la lumière, de les piéger, d'où la forme spéciale de ces particules en forme de bâtonnet, et donc d'utiliser ces électrons pour faire des réactions chimiques dans le solvant que nous avons choisi.
Vous pourriez nous expliquer comment deux éléments qui, indépendamment l'un de l'autre, le sélénium et le cadmium, qui ne sont donc pas fluorescents, obtiennent cette propriété en étant mélangés?
Eh bien, en fait, ils vont être mélangés justement à l'échelle atomique. C'est pas tout à fait un mélange, en fait, c'est un phénomène de précipitation. Alors, la précipitation, c'est en fait, on passe d'un milieu aqueux à un milieu solide. Et eh bien, les atomes vont venir s'organiser avec. On peut, entre guillemets, schématiser de cette façon-là un atome de cadmium qui va être entouré d'atomes de sélénium. Et puis, bah, pareil pour les atomes de sélénium, en fait, ils vont se retrouver entourés d'atomes de cadmium. Et donc, on va obtenir une organisation comme ça à l'échelle atomique. Et effectivement, on va obtenir un cristal par la suite. Donc, ce cristal qui va former donc, nos bâtonnets. Cette organisation et ce mélange à l'échelle atomique va permettre d'obtenir ces propriétés de fluorescence, entre autres. Alors, il y a des mélanges pour lesquels on n'a pas de propriétés de fluorescence. Là, ce sont parce qu'il s'agit de deux éléments qui, lorsqu'ils sont combinés, permettent d'avoir ce type de fluorescence. Mais ça n'arrive pas forcément avec tous les matériaux.
Prenons le temps de faire une petite pause musicale avec un peu de musique électronique au nom des plus appropriés avec le groupe Molécule et le titre Orage. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. C'était donc Orage du groupe Molécule. Revenons-en à nos photons en compagnie de Cyril et Benoît. Vous cherchez, alors pour revenir au postulat de base, en fait, vous essayez de produire du dihydrogène à partir de ces réactions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment de la lumière solaire, en passant par un catalyseur et une solution fluorescente, on obtient du dihydrogène ?
Donc nos objets vont capter la lumière, un électron va être photogénéré, et donc cet électron va être transmis au catalyseur qui est donc fixé sur la particule. Et le catalyseur va donc réaliser son rôle pour donc catalyser la réaction de dismutation de l'eau, c'est-à-dire casser les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Donc ici, l'idée, pourquoi on va venir produire de l'hydrogène ? C'est donc l'hydrogène, comme nous l'avons présenté à la fête de la science, est donc un vecteur d'énergie. C'est-à-dire que on peut ainsi stocker l'énergie électrique en énergie chimique ou l'énergie lumineuse, car c'est grâce à l'énergie du soleil donc que l'on va faire cette réaction. Et donc on va aussi pouvoir utiliser cette énergie chimique pour produire de l'électricité.
Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est qu'un photon, puisqu'au final, si j'ai bien compris, c'est à partir de l'énergie photonique, enfin d'un photon, que vous produisez de l'hydrogène. Mais si j'ai bien compris, un photon, c'est pas de la matière à proprement parler. Alors comment est-ce qu'on peut produire de la matière à partir d'un photon ?
Un photon, c'est compliqué. C'est une onde et une particule à la fois. C'est-à-dire, c'est un grain. On appelle ça aussi des grains de lumière. C'est-à-dire qu'on va venir collecter ces grains de lumière avec les particules pour pouvoir transformer l'énergie. Dans un autre type d'énergie, donc en énergie lumineuse, en énergie électrique.
Mais un photon en soi, est-ce que ça contient de l'énergie ?
Oui. Un photon, donc, c'est ce qui va constituer la lumière. Et donc la lumière peut avoir différentes énergies, comme l'ultraviolet, qui va être responsable des coups de soleil qu'on va prendre sur la plage, ou les infrarouges, donc, qui sont de la lumière de plus basse énergie. Qui va donc être surtout issu de la chaleur. Par exemple, les lampes à incandescence émettent beaucoup de rayonnements infrarouges.
Donc au final, dans quelle direction se dirigent vos recherches ? Quelles seront les applications éventuelles et potentielles ? Ou est-ce que ça reste de la recherche fondamentale à partir de laquelle on va émettre d'autres recherches fondamentales qui, elles, auront des applications ?
Donc effectivement, dans notre laboratoire, nous réalisons de la recherche fondamentale. Mais il faut savoir actuellement que l'hydrogène est produit à partir du vapotage des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'il va être produit à partir du pétrole. C'est une réaction qui va nécessiter des hydrocarbures et qui en plus va libérer des gaz à effet de serre comme le CO2. L'hydrogène actuellement n'est pas produit d'une façon propre et pérenne dans le temps, car le pétrole est donc une source d'énergie limitée. Il est nécessaire de trouver des alternatives à la production de l'hydrogène. Je crois, au niveau des chiffres, c'est 90% de la production d'hydrogène actuellement qui est produite à partir du pétrole.
Et donc, nous, l'alternative, c'est à partir de l'eau et donc grâce à nos nanobâtonnets avec un catalyseur sur ces nanobâtonnets, on va en fait casser la molécule d'eau qui est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et on va venir les faire se recombiner, d'une façon un petit peu différente, puisqu'on va obtenir d'un côté donc le dioxygène et de l'autre le dihydrogène. Et donc ce sont deux gaz que l'on va pouvoir stocker, et lorsqu'on va les faire réagir ensemble, on va donc, comme on l'a dit précédemment, réobtenir de l'énergie électrique. Et le seul déchet que l'on va former au cours de cette réaction, c'est pas vraiment un déchet, puisque ce sera de l'eau, donc issue de la réaction de notre hydrogène et de notre oxygène qui vont se recombiner. Donc ça peut permettre d'émettre des hypothèses, par exemple pour on peut imaginer des voitures qui seraient équipées de entre guillemets de panneaux solaires composés de nos nanobâtonnets plutôt que des panneaux solaires classiques. Et ce panneau solaire serait immergé dans l'eau, par exemple, et lorsque donc le soleil vient éclairer notre panneau solaire, on vient casser la molécule d'eau, stocker les gaz. Ces gaz vont ensuite venir réagir au sein donc d'une pile à combustible qui va donc faire réagir l'oxygène et l'hydrogène pour donner de l'électricité et de l'eau. On va donc avoir de l'électricité qui va permettre de faire avancer notre voiture. Et de l'autre côté, on va refaire de l'eau qui pourra de nouveau retourner au niveau du panneau solaire. Voilà, donc c'est à l'heure actuelle encore à définir. Ce sont juste des grands principes comme ça qui semblent possibles. Mais voilà, ce sont les orientations finales, les applications finales de la recherche fondamentale que nous effectuons ici.
De plus, je pense qu'on peut rajouter aussi que l'hydrogène, la combustion de l'hydrogène va libérer 3 fois plus d'énergie par unité de masse par rapport au pétrole. Et du coup, donc, l'intérêt donc, de toute cette chimie d'hydrogène est donc de venir jouer sur la liaison qui va lier les 2 atomes d'hydrogène pour formant cette liaison, on va pouvoir stocker l'énergie, et donc en cassant cette liaison, on va pouvoir libérer l'énergie. Donc c'est vraiment un système réversible, donc qui peut intervenir donc dans le stockage ou le stockage de l'énergie en énergie chimique ou la libération de cette énergie en électricité.
Et donc c'est très intéressant ce que disait Cyril, puisqu'effectivement, comme c'est totalement réversible, eh bien on n'a pas besoin de fournir de l'eau à notre voiture, en fait. Elle va casser la molécule d'eau, la recréer, et ainsi de suite. Donc à partir d'un stock initial d'eau, eh bien on peut imaginer en tout cas le conserver pendant très longtemps. On ne va pas être obligé de refaire le plein d'eau tous les 2 jours, par exemple, puisque notre voiture n'aura plus d'eau. Voilà, donc cette réversibilité effectivement permet de ne pas puiser dans une ressource qui est aussi assez rare, qui est l'eau propre ou l'eau même sous toutes ses formes.
Et en ce moment, à quel stade d'avancement sont vos recherches ?
Nous atteignons l'objectif de produire de l'hydrogène avec ces objets. Après, l'hydrogène est produit dans des quantités relativement réduites, donc ils ne peuvent pas être encore...
Donc les étapes qui restent à franchir, a priori, donc ça serait bien réussir effectivement à obtenir des rendements qui soient intéressants à l'échelle industrielle ou à l'échelle de l'application. Et pour cela, eh bien, il y a toute une étape qui consiste par exemple à mettre ces nanobâtonnets en forme pour obtenir un matériau, donc quelque chose qui serait entre guillemets palpable à l'échelle humaine, quelque chose qui pourrait être mis en forme sous une certaine forme justement, qui sera pratique pour l'industriel et qui lui permettra non pas de se dire j'ai une solution avec des nanobâtonnets et puis il se balade un petit peu, puisque c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à être accepté par les industriels, mais de se dire, voilà, j'ai un matériau qui est en forme, c'est par exemple un cube, j'ai un cube composé de nanobâtonnets, et bien ce cube, voilà, je vais pouvoir le mettre dans tel système, et à partir de là, effectuer donc la réaction que je désire.
Oui, je pense que ce système pourrait être appliqué dans une idée un peu futuriste et idéaliste d'autosuffisance en énergie, où on pourrait imaginer que chaque maison soit donc équipée de panneaux solaires ou bien encore d'éoliennes. Et donc l'énergie produite au cours de la journée, selon les aléas météorologiques ou climatiques, pourrait donc être stockée sous forme d'hydrogène. Et la nuit, donc quand par exemple les panneaux solaires sont inefficaces, cette énergie stockée pourrait être ainsi libérée au moment donc opportun lorsque l'on a besoin.
Donc merci pour vos interventions. Est-ce que vous auriez un mot pour la fin ?
Alors effectivement, nous souhaiterions remercier entre autres Valérie Marquet-Hartzner, qui est donc la responsable de l'équipe dans laquelle nous travaillons et donc qui encadre ces travaux, ainsi que Pascal Eva Hernandez, qui travaille donc avec nous au sein du laboratoire. Et nous en profitons pour saluer Thomas Bizien, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà.
C'était donc Cyril et Benoît pour l'Institut des sciences chimiques de Rennes 1. La semaine prochaine, nous parlerons des collections scientifiques de l'Université de Rennes 1 qui seront visitables sur rendez-vous gratuitement dans le cadre des journées européennes des collections scientifiques dimanche. Nous allons maintenant nous quitter, mais restez à l'écoute et à bientôt dans le Labomatique.
Clap the mighty.